prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. 18e partie, le monde bouleversé.
Poursuivre notre étude, voilà, nous arrivons à la 18e méditation sur le livre de l'Apocalypse. Alors vous savez qu'il y a 22 chapitres, on y arrive tout doucement et nous allons donc ouvrir ce chapitre 18, mais auparavant je voudrais vous faire une lecture dans l'Épître aux Romains, simplement un verset. Alors, n'ouvrez pas votre Bible, simplement je vous cite ce passage qui va un peu nous situer dans notre méditation ce soir. Il s'agit de Romains, chapitre 13, verset 11, il est dit ceci, c'est Paul qui parle, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. » Voilà, c'est préambule de ce chapitre 18. Alors, on va prendre la méthode que nous avons déjà utilisée à chaque fois, c'est-à-dire l'étude systématique, les versets les uns après les autres. Je voudrais simplement rappeler qu'au chapitre 17, le précédent naturellement, nous avons entrevu l'histoire prophétique de Babylone. Nous nous sommes penchés à trois reprises sur ce que pouvait représenter cette grande ville, cette Babylone de l'Antiquité, cette Babylone de la fin des temps. On avait remarqué qu'elle était appelée la grande prostituée. Et nous avions parlé de son jugement. Alors le jugement de Babylone, il est là, c'est dans le chapitre 18, c'est pour ça que j'introduis de cette manière. Alors en ouvrant le chapitre d'aujourd'hui, nous allons étudier son état moral, mais surtout les effets de sa chute, parce que cet effondrement va avoir des conséquences sur le monde entier. Et nous allons donc en prendre toute la mesure. D'autant plus qu'il est intéressant de considérer, comme nous l'avons vu dans Romains il y a un instant, c'est le temps de nous réveiller, c'est le temps de prendre en considération que le salut est proche, que la délivrance pour les chrétiens est proche. Alors de considérer, nous qui vivons cette période actuelle, qui est la nôtre, cette période de l'histoire, eh bien d'identifier les événements qui sont en passe de réalisation et les conséquences de l'effondrement de notre civilisation, c'est-à-dire la nôtre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de signaux, il y a beaucoup d'avertissements ou de toutes sortes de manifestations qui nous disent que nous sommes certainement pas très éloignés du retour de Jésus-Christ. Nous le verrons au mois de janvier, quand on abordera le chapitre 19. Il sera question de la seconde venue de Jésus, là, à ce moment-là. Donc, nous nous approchons et soyons attentifs à ce que nous dit déjà ce chapitre 18, où je rappelle, c'est les effets de la chute de cette grande Babylone. Il est logique, lors de l'annonce d'un séisme ou d'une catastrophe, lorsqu'elle est proclamée, eh bien que la population concernée s'en éloigne. Or, nous nous apercevons que nous sommes avertis d'une catastrophe mondiale. Et on s'aperçoit qu'il semblerait que, mis à part les chrétiens, mis à part l'Église de Jésus-Christ, il y en a peu qui s'en soucient. Et c'est ce qui va certainement donner de l'amplitude à ce drame. Alors, quand on annonce qu'il va y avoir ceci ou cela, que c'est une catastrophe, un fléau, eh bien, on a un réflexe de salut. Et le réflexe de salut, il nous est dit, et je commence par le verset 4, il nous est dit, c'est Jean qui dit, « J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. » Donc, l'avertissement, il est pour tous ceux qui ont un soupçon de foi et qui, quelque part, et particulièrement l'Église de Jésus-Christ, qui, lui, a foi en son Sauveur. Il n'y a rien de plus insensé, me semble-t-il, que de savoir à quel danger nous sommes exposés et de rester sans rien faire. On se souvient de l'histoire de la famille de Lot, qui avait été avertie et qui, finalement, n'en a rien fait. Et je crois que la caractéristique de notre monde d'aujourd'hui, c'est que devant ce que nous dit la Bible, ce que Jésus nous a enseigné également, ce que les apôtres rappellent, c'est qu'il semblerait que nous vivons dans un temps d'indifférence inimaginable. Et plus on va, et plus on ressent cette insouciance des hommes. Mais Jésus ne nous a-t-il pas prévenu, en prenant l'exemple de Noé, du temps du déluge, et de Sodome et Gomorre, mais on le vit ça. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi sortir? On ne va pas quitter le monde. Mais pourquoi, finalement, eh bien, sortir, réagir? Et pour quelle nécessité? Alors, voici une première vision qui, d'abord, va nous rappeler la nécessité de nous mettre à l'abri, de nous garantir, d'écouter ce que Dieu nous annonce et... Je crois qu'il faut justement que nous comprenions dans le début de notre chapitre 18 la grandeur de la faute et le mal inimaginable qu'a fait Babylone. Parce que c'est ça ce qu'il faut savoir. Si Dieu nous dit « sortez du milieu d'elle », c'est parce qu'il y a des raisons. C'est pas parce que c'est Babylone, mais c'est parce que c'est Babylone avec toute sa corruption, avec tout le poids innombrable de péchés, de toutes sortes de choses terribles qu'elle a commises, qu'elle a pu, eh bien, là, mettre finalement à jour. Et je reprends au chapitre 1er, il nous est dit qu'après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Voilà pourquoi il nous est demandé de quitter, de sortir, et de nous réfugier dans la foi. Et plus que jamais, eh bien, de nous tenir le plus près de Dieu dans une relation avec celui qui est venu nous sauver, avec Dieu, en quelque sorte. D'abord, vous remarquerez que dans ces premiers versets, il y a une clarté venant du ciel et un ange apparaît. Et il nous est dit qu'à l'apparition de cet ange, la terre est éclairée de sa gloire. Donc, il y a là quelque chose de solennel et nous pourrions peut-être également dire... où il va y avoir des événements vont marquer finalement l'histoire de l'humanité. C'est une révélation et un avertissement ultime qui est fait pour dissiper le faux jour terrestre, parce que les gens vivent dans la fausseté, ils vivent dans l'illusion, que tout va aller bien, qu'on trouvera quand même une solution à tous les problèmes de notre terre. Alors ça, c'est une illusion, et c'est pour ça que la terre est éclairée de sa gloire. Et nous voyons que ce faux jour terrestre voile la réalité et la gravité du mal commis. Aujourd'hui, on s'en aperçoit, où les hommes, d'une manière ou d'une autre, minimisent surtout le mal moral. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Tout ce qui a caractère, tout ce qui touche à la moralité, c'est pas grave. On peut se permettre de tout faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette... illumination pour dire, eh bien voilà, les hommes ne veulent pas voir, mais Dieu éclaire la terre, il va mettre particulièrement l'accent sur les choses abominables commises par les hommes des derniers temps et notamment orchestrées par Babylone. Donc, les choses sont ainsi. Et il y a cette proclamation qui est donnée par l'ange. Elle est tombée. Par deux fois, elle est tombée. Elle est tombée moralement, parce qu'elle ne se rend compte plus de rien. Elle est tombée spirituellement, parce que finalement, eh bien, son adoration va vers tout ce qui est ténébreux. Ce n'est plus la juste et la véritable adoration, mais c'est une spiritualité qui est dévoyée. Et sa chute est déclarée comme si elle avait déjà eu lieu, parce qu'elle est certaine, puisqu'il nous est dit simplement qu'elle est devenue un repère, une habitation pour les esprits impurs. Voilà l'état du monde. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous avons certainement une idée sur l'état de notre monde. Si les hommes, avec la force de leur poignet ou de leur sagesse ou de leur intelligence, disent « mais on trouvera des solutions », on l'entend tous les jours en ce moment. Paix et sûreté, il n'arrive à rien, vous connaissez hein, la formule. Eh bien, nous apercevons que les gens qui sont avertis, les biblistes, les gens qui lisent la Bible, qui connaissent finalement eh bien, ce que nous dit et retiennent ce que nous dit Jésus, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que c'est tout le contraire qui se passe. Il semblerait que le monde est comme dans un rêve. Il ne voit pas qu'il se prépare au cauchemar. Il se prépare à des choses terribles. Alors, elle est devenue un repère, une habitation d'esprit impur. Il s'agit d'esprits sataniques, de démons. Et la raison de sa chute, elle nous est expliquée, elle a fait tomber les autres, elle a entraîné les autres à l'erreur, elle a entraîné les autres dans la corruption, elle a fait en sorte que toute son énergie, depuis des siècles et des siècles, cette Babylone-là, eh bien, toute son dynamisme et toute sa force a contribué à amener les hommes, non pas à Dieu, mais les amener tout simplement à l'adoration, à son adoration, à sa propre adoration, mais à son dévoiement vers des choses de néant. Alors, il nous est parlé d'une corruption généralisée à travers les nations, à travers les rois et les marchands. Dans les trois premiers versets, nous avons ces termes. Ce qui nous amène à considérer maintenant la catastrophe mondiale qui vient. Parce qu'elle vient. Elle est là, nous pourrions dire. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais notre regard est retenu, notre cœur est retenu aussi par ce que nous dit Jésus. Déjà dans l'Évangile. Ce que nous rappellent les apôtres. Et nous voyons que cette catastrophe vient non plus sous un angle religieux, nous l'avions vu la fois précédente, comme au chapitre 17, mais sous son aspect social, écoutez bien parce que ça nous concerne, et politique, mais particulièrement marqué au sens économique. La catastrophe, eh bien, sera significative sur le plan social, sur le plan politique et économique, qui va toucher tous les hommes sans exception. Mais auparavant, que l'Église néanmoins retienne cette injonction divine, sortez du milieu d'elle, vous, mon peuple. Alors, quand il est dit, c'est pas la première fois que ça nous est dit, mais ça veut simplement signifier que le chrétien ne peut adhérer, épouser, collaborer avec l'esprit qui est dans le monde. Si nous sommes nés de nouveau, repentis, nés de nouveau, convertis à Jésus-Christ, notre état d'esprit n'est pas le même. Ce n'est pas possible. C'est le contraire, c'est l'inverse. Et je crois que nous vivons dans ce monde parce que nous sommes des hommes. Et nous sommes privilégiés de connaître le Seigneur. Mais d'un autre côté, on ne peut pas adhérer à ce qui se fait. On ne peut pas dire, eh bien voilà, hein, voilà ça c'est le monde à moi, c'est mon monde à moi, c'est ma terre. Hein, et s'y trouver bien, parce que bon, on sait très bien que... C'est pour ça que les choses nous sont dites. Ajoutons-y cette exhortation à la vigilance qui sera notre sauvegarde. Il y a un message tout spécial est adressé aux enfants de Dieu. C'est un message qui les presse de se dégager au plus vite de cette solidarité avec l'esprit de Babylone, et je l'ai dit il y a un instant, que Jean appellera dans son épître l'esprit du monde, l'esprit mondain, si vous voulez. Alors, ça c'était à dire, parce que, mais nous allons laisser parler maintenant les versets qui suivent, parce que nous allons découvrir quelle est l'ampleur de cette catastrophe mondiale. Alors, on va reprendre le verset 5, et on va aller un peu plus loin. Car ces péchés, les péchés de Babylone, se sont accumulés jusqu'au ciel. Vous savez, comme du temps de Sodome et Gomorre, vous vous souvenez ce qui est dit un petit peu avant, chapitre 19 du livre de la Genèse ? Jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Voilà. L'on remarquera que sa punition, que la punition de la grande Babylone, est la juste ou la plus juste contrepartie de son péché. Celui qui est mort spirituellement et qui se fait passer pour vivant est réellement mort. Il se fait passer pour vivant. Son nom sera effacé du livre de vie. Ça, nous le savons, la Bible nous le dit. C'était l'histoire de Sardes. Vous savez, toujours dans l'Apocalypse, quand il était écrit sur Sardes, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort ». Ça, c'est la qualification. C'est l'image que donne la Grande Babylone. C'est l'image de la société d'aujourd'hui. Elle passe pour être pleine d'activité, pleine d'inventions. Elle fourmille de toutes sortes de choses. Mais en réalité, moralement et spirituellement, elle est morte. Sardes. Vous connaissez l'histoire. Celui qui se refuse de pleurer sur ses péchés sera dans les larmes et dans le deuil. C'est le verset 7 que nous avons lu il y a un instant. Celui qui se dit rassasié connaîtra la famine. Ça sera l'Odyssée, l'église de l'Odyssée qui dit « Je suis riche, je n'ai besoin de rien, je suis dans l'opulence. » Alors, qu'est-ce qu'il me manque ? Eh bien, c'est aussi la société. Une société où une partie est véritablement dans une indigence et une pauvreté inimaginable et inqualifiable, alors qu'une autre partie de notre monde vit dans le luxe, dans l'argent. On n'a jamais parlé autant d'argent aujourd'hui. Autant de finances qui circulent de droite et de gauche, autant d'acquisitions, de biens, etc., etc. Ça, c'est l'Odyssée. Celui qui repousse le feu purificateur, que l'on appelle la sanctification, sera consumé par le feu, mais ça sera le feu de la Géhenne, pour l'explication de ces trois versets. Alors, qu'en sera-t-il du monde ? Et nous allons le voir dans le détail. Nous allons examiner maintenant les effets du jugement sur la terre. Et ces effets du jugement vont du chapitre 9 au verset 19, on va les prendre par section. Et nous voyons que monte à ce moment-là une triple lamentation des rois. Les rois représentent la politique mondiale, les idéologies, le matérialisme, l'humanisme. Et il y a une autre fraction que nous allons voir, il s'agit des marchands et des trafiquants en tout genre, qui comportent la finance, l'économie mondiale, les intérêts, l'argent, les biens terrestres, dont le Dieu qui couronne tout cela s'appelle Mammon. Jésus nous en parle. Et il y a également une autre partie qui nous pourrions parler de diverses professions et d'activités des hommes qui courent le monde, maritime, aérien, les affaires, le tourisme, les voyageurs, les plaisirs, les loisirs, qui sert l'ego des hommes. Alors on va le voir dans le détail. Je vous donne un petit peu le schéma grossier dans un premier temps. L'effondrement soudain de Babylone les frappe tous ensemble de plein fouet et les laisse stupéfaits. Nous en avons quelques effets déjà aujourd'hui de voir que les hommes essaient de maîtriser une machine infernale, mais quoi qu'ils fassent, ça leur échappe. Et ça touche tout, hein. La politique, ça touche l'économie, et ça touche la vie des gens d'une manière ou d'une autre. Alors les premiers touchés, on va les découvrir à travers deux versets, 9 et 10. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Ça comprend les rois, ça comprend tous les chefs d'État, les puissants de la terre, tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont le pouvoir de décision et de gouverner, ceux qui prétendent finalement mener la terre, politiquement parlant. Leur jugement est lié à leur inconduite avec la grande prostituée. Ils ont vécu effrontément dans le luxe. C'est ce que nous découvrons dans notre, ce que l'on comprend. Au lieu d'exercer leur autorité dans la justice et par la justice, à travers divers scandales. On est nourri de scandales. Hein. À travers également la corruption, à travers des abus liés au pouvoir, à travers des détournements de biens ou du bien commun, la promulgation de lois iniques, amorales, pour ne pas dire immorales. Ça vient, c'est déjà venu, mais ça continue à venir. Hein. Parce que ce sont des pouvoirs, naturellement. Quand au sommet des États, on s'aperçoit que finalement tout est pourri, tout est corrompu. Alors on peut toujours se donner une raison, ça a toujours existé. On peut toujours prendre les exemples de nos rois et puis de tous ceux qui là ont été, et les hommes ferment les yeux et disent « mais c'est comme ça ». Mais quand des hommes sont porteurs du mal à l'intérieur d'eux-mêmes, quand ils sont eux-mêmes, ils ont lâché bride dans le domaine de la moralité ou dans le domaine de bien d'autres choses. Mais comment peuvent-ils mener des peuples et des pays? Ils peuvent leur faire la morale, ça c'est sûr, c'est ce qui se fait. Mais qu'est-ce qui peut en découler? Une source pure rendra de l'eau pure, et une source, eh bien, saumâtre, une source empoisonnée va produire de la toxicité et du poison. Ça, c'est au niveau de l'État. Et on comprend que nous pouvons bénir le Seigneur de vivre néanmoins quand même dans une démocratie, parce que souvent on dit, oui, chez nous, c'est ceci et cela, mais vous savez, il y a des pays. C'est abominable ce qui se passe. Abominable. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, mais c'est le monde. C'est le monde. Ce qui fait dire au psalmiste dans le psaume 11, « Quand les fondements sont renversés, que ferait le juste ?» Ben le juste, il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'il va se désolidariser avec tout ça. Il ne peut pas dire « j'aime le monde, je participe à tout, tout ça, ce n'est pas possible. » Le chrétien est un homme qui est saint. Et saint, ça veut dire consacré, ça veut dire mis à part. On est d'accord. Ça, c'est important de le rappeler. Et on s'aperçoit que c'est une vanité, ce qui nous est présenté dans notre registre de ces hommes, de ces pouvoirs, de cette politique. Parce que on s'aperçoit que tant et tant d'efforts pour accumuler péniblement des richesses, du prestige, de la gloire, qui va se perdre finalement en un instant. Il nous est dit qu'en un jour, tout va disparaître. Ça va être la surprise. On a du mal à s'imaginer, mais vous savez, des décennies où les hommes ont accumulé ceci et cela, ça peut s'effondrer en peu de temps. L'histoire nous l'apprend d'ailleurs. Vous savez, il suffit de s'en référer un petit peu à notre force de frappe, ne serait-ce qu'en 1940. Je peux vous dire que en 3 jours, tout était réglé. C'était la débâcle, l'exode et l'effondrement d'un pays. Voilà. Mais là, ça arrivera encore plus vite, en un jour. Et il y a les moyens aujourd'hui. Alors, que l'homme ne se vante pas de sa force et de sa puissance, parce qu'il n'a plus affaire à un ennemi humain, mais il a affaire à un ennemi satanique et diabolique qui veut le détruire. Mais comme il l'a suivi, ça c'est certain qu'il n'y aura pas de quartier. Cependant, la suite démontre que ce ne sont pas les rois qui représentent la classe la plus importante, déterminante dans la fin des temps. semblerait que la politique soit omniprésente, et elle l'est, c'est vrai dans un certain sens. Mais nous allons découvrir que ce n'est pas la puissance de la politique, en tous les cas pour notre monde d'aujourd'hui, c'est celle des marchands et des trafiquants. C'est ce que nous allons voir dans la suite. Vous le savez aussi bien que moi, notre temps est marqué, notre monde est davantage dirigé par les intérêts économiques que par la politique. On n'en a jamais autant parlé, hein, c'est vrai. Mais on va en parler encore. Je dirais que cette politique des hommes, eh bien, est à la remorque du pouvoir de l'argent. Et c'est ce que nous voyons à travers les versets suivants. Le verset 11 à 16, on va le lire, nous dit ceci. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur gargaison. » Gargaison d'or, écoutez bien les mots, hein, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en or, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, écoutez bien la suite, de corps et d'âme d'homme. Je continue. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiennent éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et pare d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Après le monde de la politique, voilà le monde de l'économie, le monde des affaires. Personne n'achète plus la gargaison, finalement, de tous ces gens qui sont enrichis. Alors, je vous dirais qu'il n'y a qu'une partie de l'humanité qui est riche. Et puis, il y en a beaucoup qui sont en dessous. Hein. C'est comme ça. Je crois que le monde arrivera à la fin des temps dans une crise sans précédent, qu'on n'a jamais pu imaginer. On a déjà des indicateurs hein, qui bougent, hein, les bourses et puis toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, la raison de l'actualité et les commentaires des médias portent là-dessus. On le voit, hein. Faut acheter français, c'est très bien, mais ça c'est un vieux refrain qu'on a déjà entendu il y a une trentaine d'années. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Peu importe, c'est pas important. Nous voyons qu'il arrivera un moment où le commerce va s'effondrer, les marchandises vont perdre leur valeur, l'argent ne vaudra plus rien, c'est déjà arrivé. Où il y aura là un effondrement, une dévaluation, finalement, eh bien de la monnaie, hein, des pays. On a voulu rassembler les peuples, les pays, dans des monnaies communes. Ça va venir. Hein. Ça se fait plus ou moins bien, plus ou moins facilement. Mais à un moment donné, même une fois que ça sera réalisé, il va y avoir quelque chose qui va faire perdre la valeur à toute chose. Et nous voyons que même les produits ne vont même plus se vendre. Et on en arrivera à un moment donné. Mais ce n'est pas que ça va arriver. Ça existe depuis la nuit des temps, vendre des corps et des âmes d'hommes. Et là, j'attire votre attention. Parce qu'on a peut-être une idée sur ce que cela veut dire. Mais tous ces trafics, en parlant de l'âme, psychologique, toutes ces philosophies, ces bombes que j'appellerais idéologiques, que ce soit en politique, montrant ou vantant, eh bien là, la perspective d'un bonheur universel. La solution ou la résolution de tous les problèmes qui existent dans notre monde, à travers des sophismes, vous savez, des vues de l'esprit qui ne sont que vanité. Ça, c'est la manipulation des hommes, des âmes, pardon. Et puis, quant au corps, alors le corps, on pense à l'esclavage, naturellement, hein, et l'esclavage, il a été résolu au XIXe siècle, mais l'esclavage, il existe toujours. Et il existe dans des pays sous-développés, le tiers-monde, mais il existe aussi chez nous, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Les travaux d'Égypte ne sont pas terminés. Pharaon est toujours sur son trône. Et les gens souffrent encore dans la même misère, misère sociale, misère économique d'une manière ou d'une autre. Le rejet, le sectarisme, le racisme. Alors, tout ça, ce sont des trafics, on peut le dire. Mais qui profite à certains. Et qui plus est, le trafic des consciences. La manipulation de la conscience. C'est ce que nous avions vu au chapitre 17 avec la grande prostituée, vous savez. Ça, on l'avait vu. On sait comment les choses se préparent. Et pour certaines marchandises, il ne faut pas de conscience. Surtout quand on touche à l'homme, notre semblable. Alors, les marchands, pleurent et se lamentent sur leurs profits perdus. Mais aurait-il mieux valu qu'ils pleurent plutôt sur leur âme perdue? C'est ça la grande différence. Et il semblerait que plus les richesses s'accroissent, plus il y a de profits, moins l'homme pense à son âme ou à son éternité. C'est bien la petite parabole dans l'évangile de Luc où Jésus nous parle de ce riche cultivateur qui finalement a prospéré au-delà de toutes ses espérances et qui finalement se frotte les mains en disant bien moi je suis riche, je peux attendre finalement, je peux prendre ma retraite. Et il se parle à lui-même, mais il parle qu'à lui parce que finalement tout ça tourne autour de son ego jusqu'au moment où il entend la voix le soir et qui lui dit mais aujourd'hui, enfin cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Le monde n'a jamais été aussi incrédule. Le monde n'a jamais autant rejeté Dieu. Il n'y a jamais eu autant de désaffection de la foi que maintenant. Et particulièrement dans nos pays occidentaux enrichis. Vous savez, là où il y a véritablement des grands réveils autour de l'Évangile, actuellement c'est en Corée du Nord, oui, c'est en Chine, c'est dans tous ces pays défavorisés. Parce que finalement, la misère, cette misère humaine, amène les hommes, comme dans le sermon sur la montagne. Heureux vous qui pleurez, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui avez soif. Alors, comme ils n'ont rien autour d'eux, ils se tournent, n'ayant rien sur la terre, ils se tournent vers le ciel. Et le ciel leur répond, parce que c'est là où il y a des réveils. C'est là où il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est là où il y a des guérisons, des miracles, des conversions par milliers. Eh oui, c'est comme ça. Quel triste monde que le nôtre, notre monde occidental. Alors, si nous regardons à ce monceau, excusez-moi, c'est un euphémisme, à cette montagne de marchandises éphémères et consommables, vous avez remarqué que sont mentionnées des matières premières pour la fabrication d'articles de luxe, de l'or, de l'argent. Vous l'avez vu avec moi, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, du fin lin, du pourpre, de la soie, de l'écarlate. Il semblerait que ça soit tout de suite en tête. C'est curieux parce que je me suis laissé dire que dans cette fin d'année et en période de crise, les gens ne regardent pas la dépense. Oui. Vous savez, vous allez à Place Vendôme à Paris. C'est là où il y a tous les joailliers et les bijoutiers. Ils font leur affaire. Il y aura toujours de l'argent. Aucun problème. Alors, des articles de luxe en premier, c'est pour les riches. Ensuite, il est parlé d'étoffes précieuses. Parce que là où il y a des richesses, la mode tient une place prééminente. La mode vestimentaire, qu'elle soit classique ou qu'elle soit provocante, mais peu importe. Il est parlé des épices et des onguents, tout ce qui contribue aux soins du corps. Vous vous rendez compte? On n'a jamais autant ouvert d'officine pour que les gens se détendent, pour qu'ils fassent du sport, pour qu'ils se fassent soigner, pour qu'ils puissent, la thalasso et tout ça. Je n'ai rien contre. Mais je constate que dans des moments où véritablement l'homme devrait penser à autre chose que son corps, bien que nous devons penser à notre corps pour l'entretenir, mais qu'il y a quand même une réalité qui se profile à l'horizon, c'est qu'il va falloir penser à notre âme, ou les hommes doivent penser à leur âme, et aussi à ce que la Bible nous prévient qu'il va arriver. Or, on s'aperçoit qu'on redescend à l'état inférieur. Les aliments fins, il nous est parlé du bétail, des chevaux, des chars. Les chars, ça me fait penser à l'automobile, vous savez. Enfin, c'est une idée personnelle, mais c'est ça. Si vous allez à Québec, vous verrez, quand ils vous diront de stationner votre voiture, ils vous diront, tu parques ton char ici, vous comprenez. C'est du québécois, c'est du canadien, enfin du français, hein, mais un peu amélioré. Oui, je pense à toute cette puissance de destruction qu'il y a à travers cette frénésie de la vitesse de l'automobile et avec toutes ces suites meurtrières de notre monde. Ouais. Pourtant, les gens le savent qu'ils vont mourir. On ne va pas tous mourir en voiture, naturellement, mais je veux dire que c'est un fléau. Fléau mondial, surtout dans nos pays occidentaux. Mais les gens n'arrêtent pas. Hein. C'est comme ça. Hein. Surtout pas se priver de cela, parce que c'est une... Finalement, c'est une forme de gratification sociale, c'est une élévation sociale. Et quelquefois, ça se termine pitoyablement. Toutefois, le plus indécent de ce trafic, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les corps et les âmes d'âmes. L'esclavage moderne où l'homme est vendu, où l'homme est trafiqué, où l'homme est exposé, aucune partie de lui-même n'échappe à la cupidité et au voyeurisme. C'est notre monde. Vulgaire marchandise que le corps d'un homme ou d'une femme, d'un homme, parce que naturellement ça nous amène à la prostitution, au proxénétisme, à la revendication de faire de son corps ce que l'on veut, avec qui l'on veut, et à l'occasion, exploiter l'exploitation de l'image et de l'innocence de l'enfant. Oui, l'innocence de l'enfant. Quand aujourd'hui nous entendons pratiquement continuellement de la répression contre le tourisme sexuel. C'est affreux, hein ? Et là où on ne pourrait peut-être pas le soupçonner. Parce que ce sont des destinations à la mode aujourd'hui, dont la législation n'arrive pas à juguler. La normalisation de pratiques contre nature et son encouragement. Voilà les raisons de la chute de Babylone. Je dis bien pratique contre nature. Exploration éhontée du faible pour les asservir à un travail pénible et non rémunérateur. Quand on voit que nos matières premières, il y a des gens qui sont en train de mourir dans des mines en Amérique du Sud ou en Asie pour le coton ou autre chose, que des gens gagnent un bol de riz pour manger, alors que nous allons faire des dépenses inconsidérées, et que c'est pour nous qu'ils le font. C'est pour nous, c'est pour notre consommation à nous, non rémunérateur, à travers toutes les contraintes psychologiques de rentabilité que nous trouvons dans notre système même, de fonctionnement des entreprises. Ouais, on pousse les gens au maximum. Puis si vous n'êtes pas apte, bon, il y en a... Oh, qu'est-ce que je dis aujourd'hui ? Il y en a bien 500 qui peuvent vous remplacer. Dans le temps, il y en avait peut-être un peu moins, mais aujourd'hui, c'est ça. Hein. Tout le monde est à la porte. Hein. Alors, tout est bon dans notre monde pour s'enrichir par la consommation à outrance et sans conscience. C'est ça ce qui est terrible. Alors, quant à Babylone, quand elle tombe, puisque les choses sont dites, le chaos économique est total. Le monde qui incarnait les espérances et toutes les sécurités, promesses de bonheur, alors ce monde-là s'écroule sous le poids de son péché favori, c'est l'amour de l'argent. Mammon. On ne dira pas autre chose. Jésus nous en a parlé. Jésus a prévenu. Il a même prévenu son Église de ne pas tomber dans le travers de l'argent. Quelquefois, ça nous laisse dubitatif aussi. Le rapport de l'Église avec l'argent, de certaines églises avec l'argent, sur certains continents. Alors nous en arrivons à une troisième catégorie, versets 15 à 16. Les marchands de ces choses se sont enrichis, je l'ai lu mais je le relis, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur. Voilà. Mais quand on reprend le verset 17, c'est encore une autre catégorie. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, vers Babylone, vers la civilisation, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tiennent éloignés, se tenaient éloignés, et ils s'écrient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville ? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et en une seule heure, elle a été détruite. Identifions cette troisième catégorie aux voyageurs, ceux qui courent le monde entier. Le monde n'a jamais été aussi visité qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous avez su que les usines, l'industrie aéronautique bat son plein, hein, que ce soit Airbus ou que ce soit Boeing, n'ont jamais dans leur histoire vendu autant d'avions. Aujourd'hui. Et nous sommes en pleine crise. Vous l'avez entendu? C'était dit aujourd'hui. Hein. Jamais tous les records ont été battus. Alors, ceux qui courent le monde. Il y a les pilotes des navires ou des avions. On peut le dire aujourd'hui parce que Jean ne pouvait pas le dire. Et autres vaisseaux. Il y a les affairistes. Il y a les marins. En un mot, ceux qui vivent, soit pour le plaisir, pour ceux qui voyagent, ou soit pour les affaires, la nécessité, de tout ce qu'ils peuvent retirer de leurs déplacements internationaux. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Voilà. C'est un mot maintenant qui est tout à fait familier. Hein, on le connaît, on en parle finalement au quotidien. Les marchands s'enrichissent des ressources de la terre. C'est la deuxième catégorie qu'on a vue tout à l'heure. Ceux-ci tirent leur profit de la mer. La dernière catégorie, ils tirent leur profit de la mer. C'est le monde du mouvement. Et c'est le monde en mouvement, le monde qui bouge avec la technologie et la sophistication des moyens. Aujourd'hui, plus rien n'est caché de ce qui se passe de l'autre bout du monde. On a les moyens aujourd'hui. Hein. Si vous voulez faire un voyage aux Seychelles, vous restez dans votre fauteuil, vous regardez un reportage, c'est comme si vous y étiez. Sauf que vous ne pouvez pas prendre un bain dans la mer. Hein. Mais c'est extraordinaire. C'est assez étonnant tout cela, mais bon, voilà, c'est comme ça tout simplement. Nous sommes dans le monde de l'instantané. La vitesse de l'info est flagrante. Le ciel, la terre, la mer sont criblés, sont câblés. Si l'on veut. Et puis il y a certainement encore d'autres thèmes que je ne connais pas. Ces trois éléments de l'espace sont pleins de tout. Le ciel, la mer et la terre. Tout est rempli, hein. Ça bouge dans tous les sens. Et vous allez voir qu'à la fin de notre méditation tout à l'heure, quand je vais terminer, vous allez voir que tout va s'arrêter d'un seul coup. Ça va faire un drôle d'effet. Il y a un fourmillement autour de nous dans les grandes métropoles, les mégapoles, les villes. Il n'y a peut-être que les campagnes isolées où on est encore à peu près tranquille. Peut-être. Parce que vous avez encore des avions qui vous passent au-dessus de la tête. Mais bon. Hein, surtout quand ils construisent un aéroport, comme ça va bientôt arriver, là, ils ne sont pas très contents, nos amis de la campagne. Alors, nous voyons que les distances et les frontières ne comptent plus. Le temps est raccourci. Notre planète n'offre plus d'espace, de tranquillité. Oui, même dans les petites villes. On peut parler de saturation, d'abondance, de foisonnement, de profusion et de compression. Qui amène les gens à la dépression aussi, hein, parce que le stress, il vient de tout cela naturellement. Et ce sont des phénomènes qui risquent tôt ou tard, qui menacent l'explosion. On se dit quelquefois, lorsque l'on voit d'une façon ou d'une autre, les activités humaines, lorsque l'on voit ne serait-ce que la détente des hommes quand ils partent en vacances, boum, c'est, hein, on parle du Grand Roche. Et les aéroports sont pleins, les gares sont pleines. On se dit, mais comment contenir tout ça, hein ? Soit dans le loisir ou soit tout simplement dans la nécessité, d'une façon ou d'une autre. Alors, la question qui se pose, et elle est posée finalement à travers le dernier verset que nous avons lu tout à l'heure, jusqu'où ou jusqu'à quand resterons-nous maîtres de la bombe ? Et quand je parle de bombe, au verset 19 que nous avons lu, il nous est dit, en une seule heure, la Grande Babylone a été détruite. Eh, vous savez qu'on dispose de quelque chose qui est capable de faire voler notre planète en une heure ? Même pas en une heure. Même pas en une heure. Alors je pose la question, et on se la repose les uns les autres, mais est-ce qu'on a la maîtrise de la bombe ? Qu'elle soit d'une manière ou d'une autre ? Parce que nous sommes assis sur un baril de poudre. Hein. Les gens sensés disent, mais jusque à quand ça va ? ça va arriver. Quand on voit combien les gens sont pressés, combien ils sont stressés, comment on exige peut-être aussi des hommes tant et tant de choses. On leur dit, voilà, nous vous proposons dans notre système le bonheur. Regardez le bonheur, il est à portée de main. Mais prenez-le, le bonheur, vivez heureux. Puis d'un autre côté, ils sont malheureux. Hein, parce qu'il y a tellement de choses. Tout se disloque. Ça, c'est terrible. Alors, si sur la terre, le monde est consterné, dans le ciel, et c'est ce que nous allons voir pour terminer, éclate la joie. Car la délivrance tant attendue est enfin arrivée. Et nous allons lire la suite. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Là, il semblerait que le salut soit absent. On le verra la prochaine fois. Il n'est plus de question de salut à partir de ce moment-là. Il semblerait que ça soit terminé. « La démonstration est faite que les enfants de Dieu, que l'enfant de Dieu fidèle, que les enfants de Dieu fidèles ont eu raison de ne pas vivre pour la terre et de l'amour du monde. Et vous savez pourquoi ? Preuve en est, tout est perdu. Ce qui me mène à dire simplement, mes frères et sœurs, usez de ce que Dieu nous donne, mais n'en faites pas votre idole et n'en faites pas votre paradis. Parce que c'est bien d'avoir ceci, d'avoir cela, etc., etc. Mais vous savez, on peut accumuler beaucoup de choses dans la vie. Mais ça peut partir du jour au lendemain. Et nous pouvons le perdre déjà par notre propre mort. Je dirais, ça ne sera pas perdu, ça sera pour nos enfants. C'est l'héritage. Mais tout est perdu. Et vous savez, quand on nous dit, quand la Bible nous prévient, n'attachez pas votre cœur à toutes ces choses, c'est qu'il y a des raisons. Et nous sommes peut-être dans le temps où nous allons voir que tout cela, c'est de la vanité. Ça nous aide à vivre. Bénissons le Seigneur pour les choses qu'il nous donne. Et on n'est pas très riche. Hein. Mais bénissons le Seigneur et soyons contents de ce que nous avons. Mais qu'un chrétien quitte le Seigneur pour faire de ses biens et de tout cela, eh bien, sa raison de vivre, alors là, c'est triste. C'est quelque chose. Dieu a fait justice en jugeant Babylone. Ensuite, un ange apparaît. Il saisit une pierre comme une grande meule. Et il la jette dans la mer, verset 21, c'est-à-dire le suivant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Remarquons qu'elle n'est pas jetée sur la terre, mais elle est jetée dans la mer. Et ça, il y a une nuance. Parce que la mer représente la profondeur. L'ange ne la laisse pas tomber non plus. Il la précipite avec violence. C'est l'image de la colère divine. Ce bloc de pierre typifie cette fausse religion et la culture dont elle est issue. Ces faux dieux, cette fausse politique, tous ces systèmes qui représentent, qui est l'amalgame de Babylone. Et elle est imagée sous une forme de meule. Cette Babylone, parce que elle a eu un rôle, elle broie les hommes, elle les écrase, elle est insensible et elle est froide. Voilà, tout le contraire du message de l'Évangile. Et l'ange va se débarrasser jusqu'au fond de la mer, ainsi le jugement est irrévocable, il est total et il est irrémédiable. On finit. Que va devenir le monde ? Verset 22. Et l'on n'entendra plus chez toi le son des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Que devient le monde ? Il va devenir, après avoir été l'illusion de la vie, comme c'est qu'une illusion de la vie, il va devenir un cimetière, sur le plan moral. Un ossuaire, en quelque sorte. Après tout ce bruit, ça sera le silence. Après tant de fièvre et de bruit, de brouhaha, de mouvement, la mer et les flots qui se, finalement, eh bien là, sont renversés, ça va faire place au silence. L'expression « ne plus » que nous avons lue à plusieurs reprises, il nous est dit « on n'entendra plus, on ne trouvera plus et ne brillera plus » revient 6 fois dans nos versets. Avec l'effondrement de la grande Babylone et de sa civilisation survoltée, il va faire place à un silence et une torpeur qui va régner partout dans le monde. D'abord, la musique cesse. Et c'est intéressant. La fête et les étourdissements et le rythme va s'arrêter. Imaginons un monde sans musique aujourd'hui, où les gens travaillent en musique. Enfin, certains en tous les cas. Vous avez remarqué ? Moi, j'ai du mal, personnellement, à me concentrer quand j'ai de la musique et du bruit autour de moi. Je veux que ce soit le silence, parce que j'ai du mal. C'est comme ça. Mais quand je vois que les gens sont capables de faire plusieurs choses à la fois, et le monde vit au rythme de la musique. Vous avez vu, il y a là tout un monde de branchés, hein, et de connectés. En tout, hein. En tout. Et un jour, la Bible nous dit que ça va s'arrêter brutalement. Parce que ça devient une drogue, cette musique. Les gens ne peuvent pas vivre sans. Ils font de la déprime s'il n'y a pas de bruit. S'il n'y a pas, finalement, quelque chose. C'est euphorisant. Ensuite, il y aura la disparition de l'artisanat, qui est l'expression du travail le plus élémentaire, c'est-à-dire l'homme qui travaille avec ses mains. Et le monde a toujours travaillé comme ça, il a commencé comme ça. Et là, ça va cesser. Le bruit rassurant de la meule se taira. Les besoins vitaux seront touchés après des périodes de gaspillage et de gâchis. Viendra la pénurie. Écoutez, j'entendais en Allemagne, un spécialiste disait que l'Allemagne, elle toute seule, jette 200 millions de tonnes de produits qui pourraient être consommés, mais elle les jette, elle les met à la déchetterie. La France, on ne doit pas être loin. 200 millions de tonnes par an. Vous vous rendez compte ? Ce que ça représente ? Nous, on a un système extraordinaire de voirie, hein. Il y a au moins 5-6 camions qui passent pour ramasser ceci, pour ramasser cela, etc. Dans le temps, on ramassait tout en même temps. C'était plus simple, on n'entendait pas le bruit. Maintenant, mais là, ça va s'arrêter aussi. La pénurie. Après l'abondance, après des décennies, les Trente Glorieuses, on risque d'avoir peut-être... Là, les gens vont maigrir. Ils auront un traitement qui sera identique pour tout le monde. La lumière de la lampe va s'éteindre. L'intensité de la lumière artificielle et illusoire de notre monde fera place à l'obscurité. Ça pourrait nous arriver, hein, un jour ou l'autre, on va s'éclairer à la bougie. C'est sympathique au moment de Noël. Plus de faux jours, ça sera la lumière réelle, c'est-à-dire qu'on sera dans le noir. Enfin, la lumière réelle, tout ce qui pourra rester. Hein. Parce que ça nous fait vivre, on a besoin de lumière, nos villes, notre continent, les continents développés. Quand vous les regardez par satellite, vous avez peut-être vu ça, c'est tout illuminé, alors que l'autre partie du monde, elle est complètement dans le noir, hein. Mis à part quelques grandes villes, quelques grandes métropoles, mais c'est terrible tout cela. La réalité sera le noir, après avoir été à la lumière, mais c'est une lumière artificielle, alors de toute façon, c'est pas trop ce qui nous convient. Mais le noir comme le fond du cœur des hommes, c'est ça, parce que ça sera le correspondant, hein. Si l'homme cherche la lumière artificielle, c'est qu'il n'a pas la véritable lumière. Et pourtant, elle lui est proposée. Toute unité, l'amour, l'amitié disparaîtront, puisqu'il nous est dit la voix de l'époux et de l'épouse, eh bien là, ne se feront plus entendre. Et on assiste déjà à ce phénomène de dislocation des familles, des mariages, la multiplication des divorces, et qui fait éclater, finalement, les familles. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue. S'il n'y a plus de lumière, eh bien, il n'y aura plus de chaleur. Ouais, parce que la lumière, elle produit de la chaleur. Mais ce n'est pas de la chaleur dont nous avons besoin, comme nous l'entendons. Cette chaleur entre les hommes, vous comprenez ? Pourquoi ce sinistre résultat ? On a totalement oublié Dieu, le Dieu créateur et le soutien de la vie. Et s'il n'y a plus ce Dieu créateur et le soutien de la vie, il n'y a plus de vie. Et tout tient à l'artificiel. Tout tient, finalement, eh bien, avec des étés. Vous comprenez ? Hein ? Tout tient parce que c'est soutenu artificiellement, tout simplement. Alors, que reste-t-il de ces bruits familiers qui font le charme de la vie ? Mais n'est-ce pas tous ces bruits-là de notre monde, ce brouhaha assourdissant, ce tapage épouvantable que nous avons dans notre monde, qui a longtemps empêché l'homme de sentir sa misère, de sentir le vide, de sentir la vanité de son existence, l'insuffisance qui est en lui, son indigence morale et spirituelle, et surtout leur culpabilité. Plus il y a de bruit, moins les gens pensent. Surtout, ils pensent aux réalités, à la vérité, à ce qui est, ce qui a de la valeur. Ce silence, à ce moment-là, parlera-t-il à la conscience des hommes ? Ils ont tellement étouffé leur conscience. Alors, je reviens, sortez de là, nous avons commencé au début de ce message, sortez de là. Cet appel s'adresse à tous, particulièrement aux enfants de Dieu, qui sont inconscients ou insouciants de la situation ou négligents. Dieu leur dit, sortez des rangs, sortez de ce vacarme et commencez à réfléchir. Cette même parole retentissait déjà il y a 2800 ans sous la plume ou dans la bouche du prophète Ésaïe quand il disait ces mots. Je vais retrouver le passage, je voudrais simplement le dire parce qu'il est quand même assez évident. Il est dit ceci, l'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, il s'agit de Babylone, hein, déjà dans l'Ancienne Alliance. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel, vous qui le servez. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fervera votre marche. Nous avons notre Dieu avec nous si nous voulons véritablement eh bien, conserver cette relation et cette communion avec lui. Et ça, c'est important. C'est une question de communion. Sortir du mal, du conformisme mondain, sortir de l'aliénation engendrée par l'utopie humaine, parce que ce n'est pas les hommes avec leur programme qui vont nous donner le paradis, qui vont nous donner le vrai bonheur. Ça, c'est de l'utopie. Et le plus grand nombre des hommes court après cela. Alors il nous est dit sorti. Et je termine par où nous avons commencé. Je rappelle les paroles de Paul, car cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne sa grâce. À travers cette méditation du chapitre 18, au mois de janvier, eh bien, le mercredi 18 janvier, nous nous retrouverons et nous parlerons des noces de l'agneau et de la seconde venue de Christ. Alors que Dieu nous bénisse.